Vous aimez les artistes régionaux? Retrouvez-les chaque mardi de 15h à 16h dans l'émission Talents d'ici et d'ailleurs, proposée et animée par la Dame Brune avec la participation de Séverine. Bonjour à tous, ensemble jusqu'à 16h et ravis de vous retrouver après cette période de vacances. Une nouvelle saison d'émission qui redémarre et avec un petit peu le soleil, mais enfin bon, pas beaucoup, on est en septembre, mais voilà, je suis ravie d'être avec vous. Et on recommence avec du beau monde. Alors j'ai Yanis Taïeb, poète 4.0. qui nous vient de Cluny, hein, Cluny qui se trouve en Bourgogne. Et nous avons aussi avec nous Chris Descourtil. Bonjour Yanis.
Bonjour la Dame Brune, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour Chris.
Bonjour Chris.
Bonjour Yanis.
Bonjour, alors,
bonjour tous les auditeurs d'RTL.
Alors, RTL, non mais... Oh la belle blague, RTL.
Parce que j'ai trop l'habitude d'être sur les grandes.
Et ben voilà,
C'est parce que on avait une conversation tout à l'heure avant d'être dans le studio où on parlait d'autres radios et puis voilà, c'était une petite blague.
On n'est pas sur France Inter là.
Ah non mais je vous l'ai dit hein, que ça a redémarré très fort. Alors messieurs, vous avez tous les deux un point commun, la poésie, n'est-ce pas?
Oui, et peut-être d'autres.
Hein. D'autres, oui. Alors Yanis Taïeb, poète 4.0, auteur, écrivain, auteur mais pas que, poète et musicien des mots, mais pas seulement, philosophe entre autres. Alors aujourd'hui, je reçois Yanis Taïeb en tant qu'écrivain. Alors Yanis, j'aimerais bien que les auditeurs et auditrices vous découvrent. Qui êtes-vous ?
Qui je suis ? La bonne question. J'ai pas encore trouvé, mais je cherche. Non, je suis en l'occurrence aujourd'hui poète, romancier. J'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans. La poésie, en fait, c'est quelque chose qu'on commence très tôt, souvent, c'est une vocation. C'est comme un sacerdoce, on va dire.
Et souvent, il y a un déclic.
La poésie, ça vient tout seul, hein, ça vient du ciel, on ne sait pas d'où ça vient. En fait, on commence à écrire des mots, et puis voilà. Et donc, j'avais commencé à 10 ans, et puis j'ai écrit jusqu'à mon adolescence, et puis après, j'ai fait des études. Alors, poète, c'était pas un métier, donc... En plus, la malchance que j'ai eue, c'est que j'étais doué pour les études, donc on m'a dit, allez, va travailler, apporter de l'argent. Donc, je me suis perdu pendant très longtemps, comme ça. Et les mots m'ont rattrapé il y a 7 ans de ça, suite à différentes circonstances de la vie, hein. Et j'ai été complètement happé par les mots. J'ai recommencé à écrire, ça sortait de dans tous les sens, ça partait partout. Et donc j'ai recommencé par la poésie, ensuite j'ai écrit des chansons. Et puis à un certain moment, je me suis dit, la poésie c'est bien, mais est-ce que tu saurais écrire un roman ? Alors je me suis mis au défi d'écrire un roman. Et mon idée, c'était d'écrire un roman comme j'écrivais de la poésie, c'est-à-dire avec un rythme haletant, des vers, des rimes, Et c'est ce que j'ai fait avec mon premier roman, L'Aurore des Chrysalides, on en parlera après.
Oui, donc voilà. Plusieurs livres déjà à votre actif, des livres et des recueils.
Oui, j'écris 5 livres, enfin 6 en réalité, parce qu'il y en a un qui doit sortir au mois de décembre, qui est déjà écrit, mais qui n'est pas encore sorti. En fait, j'ai écrit 3 romans et 3 recueils de poésie, et puis de nombreux textes que je n'ai pas encore mis en livre. Mais...
Alors un nouveau livre en décembre, ça veut dire je vais revenir.
Et avec plaisir, hein. J'aimerais faire le réveillon de Noël ici.
Non mais je pense qu'il va prendre goût à la région.
Oui,
je le sens.
J'ai déjà pris goût.
T'as déjà pris goût. Bon, c'est vrai qu'on est bien dans les Hauts-de-France. Hein. On n'a peut-être pas le, toujours le, le... Ah, quoi que si, maintenant, on a les grosses chaleurs. Avec le réchauffement de la planète.
Mais il y a au moins la chaleur des âmes et des cœurs ici. C'est déjà énorme.
Oui, oui, oui. Et je sais que tu m'as fait une réflexion quand nous sommes allés dans notre petite ville de N, où je t'ai descendu au café. Tu m'as dit, les gens... Il y a un monsieur qui t'a parlé sans te connaître.
Oui, 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 les gens parlent facilement. C'est ça aussi, être humain, non? C'est essayer de communiquer, échanger. Puis ce qui est marrant, c'est que c'était un homme relativement âgé. Et voilà, quoi, je trouve ça bien, les relations intergénérationnelles. C'est ce qui manque aussi dans le ciment de l'humanité aujourd'hui.
Oui. Alors, Yanis, bon, là, nous sommes à la radio. Hein, nous sommes sur le 104.3 en DAB+, Radio+. On ne te voit pas, on t'entend, mais on ne te voit pas. Alors, mesdames, ce jeune homme, je peux dire que c'est un jeune homme.
Ah hein, oui, je suis un jeune homme, il n'y a pas de...
Il a une tenue vestimentaire particulière. Est-ce que tu peux la décrire un petit peu pour que les auditeurs ont quand même un visuel...
D'accord. Est-ce que je dis que je n'ai pas de caleçon? Non, ça.
Non, ça, faut pas le dire.
Alors, non, oui, c'est assez particulier, en fait, mais c'est, pour moi, c'est très symbolique, en fait, la façon dont je suis habillé. J'ai on dit une jupe, c'est pas une jupe, c'est un kilt, en fait. J'ai un kilt. Et pour moi, qu'on soit une femme ou un homme, on a forcément une partie féminine, une partie masculine. Il y a aussi l'enfant aussi en nous. Et le kilt, c'est symbolique parce que c'est en même temps le kilt, c'est ce que portaient les Outlanders écossais. Donc c'est en même temps les guerriers, les hommes virils, etc. Et en même temps, il y a des petits froufrous dans le kilt. Donc ça représente aussi la féminité. Et en fait, je me sens bien comme ça parce que notamment l'écriture m'a amené à essayer de trouver un équilibre en moi entre ma voix féminine et ma voix masculine. Et voilà, c'est comme ça que je me sens bien. Et je veux l'exprimer parce que je trouve que dans ce monde, il y a un peu trop de virilité. On a tendance à mettre de côté la féminité. Et c'est assez dangereux, en fait, de déséquilibrer le monde comme ça. C'est dangereux pour l'humanité, c'est dangereux pour plein de choses, quoi. Voilà. Il faut écouter les deux voix. Les Indiens disaient, d'ailleurs, les Amérindiens, ils disaient qu'on devait savoir écouter sa voix masculine et sa voix féminine. Voilà.
Ouh. Alors, le premier recueil, c'est... Un parfum de féminité d'âme de cœur. Oui, alors moi je pense que le mieux de tout, c'est de nous lire un extrait.
Oui, je vais vous lire une toute petite partie du synopsis qui explique en fait, mais je vais peut-être l'expliquer avant, c'est que quand j'ai repris l'écriture, justement, c'est ma voix féminine qui s'est exprimée. Par rapport à la sauvagerie un peu de ce monde, on va dire, et voilà, c'est elle qui m'a dit qui a essayé de me remettre dans la voie de l'amour, de la bonté, du respect de l'autre, de la communication, du partage, voilà, de l'humanité. Et donc ce sont que des textes autour de voix féminine, et d'ailleurs en fait une partie des textes du recueil sont des chansons que j'avais écrites pour une chanteuse, et le titre de l'album s'appelait La fille de l'air. Voilà, un parfum de féminité. Je vais vous lire en fait une partie du synopsis qui explique un peu ma démarche. J'avais repris ma plume depuis 3 mois quand m'est apparue cette révélation. Et si Dieu était une femme, si la part de féminité en chacun de nous était un don qu'elle nous faisait au moment de naître, une part d'éternité dans la révélation de l'être. C'est tout un questionnement.
Alors, comment on peut écrire ce livre, ce titre, Un parfum de féminité, quand on est un homme?
Oui, ben, justement, en fait, c'est ma partie féminine qui s'est exprimée. Je me sens tout à fait masculin, hein, je vous rassure. Mais c'était exprimé, ma partie féminine. aussi que j'avais longtemps enterré, parce que c'est vrai, dans cette société il faut être un homme ou une femme, voilà. Et pour en revenir aux Amérindiens, les Amérindiens, ils considéraient pas qu'il y avait deux genres, l'homme et la femme, ils considéraient qu'il y avait cinq genres, et je crois qu'ils ont raison. Et ça a aucun rapport, je veux dire, avec les pratiques sexuelles ou le type de couple, etc. C'est un rapport avec l'être profond, quoi, son âme, son esprit, la façon dont on fonctionne. De toute façon, les neuropsychiatres, ils disent bien qu'il y a un cerveau droit, un cerveau gauche. Certaines personnes utilisent plus le gauche que le droit, etc. Et tout ça, ça fait appel à des choses différentes, une façon de fonctionner qui est différente de l'être humain. Et c'est ça qui fait l'humanité, l'homme et la femme. L'enfant né de l'homme et de la femme.
Chris Descourtils.
Oui, je suis là.
J'ai envie de vous poser une question. Et si Dieu était une femme ?
Alors, Dieu n'est déjà pas un homme. Si on reprend un peu l'esprit des Amérindiens, justement, ils ont l'esprit de la forêt, l'esprit du bison, ils ont un peu cette culture-là, un peu de la nature, qui remplace un livre sacré. Et au-dessus de tout ça, il y a le grand esprit. Donc déjà, Dieu est esprit. Ensuite, c'est assez logique, parce que les peuples amérindiens sont des peuples nomades. Donc la terre ne leur appartient pas. La terre est leur mère. Ce qu'on retrouve aussi dans le monothéisme en général et toutes les religions qui en suivent, Abraham était un nomade. Donc on a un peu la même logique dans le monde nomade. On peut dire qu'on a un côté masculin, un côté féminin, mais en chacun de nous, il y a aussi un peu un sédentaire et un nomade. Même si on habite sur un terrain, on rêve de pouvoir aller partout, et on peut considérer que même si on est propriétaire d'un petit bout de terrain ou d'une maison, que la planète, elle appartient à l'humanité quelque part. Donc on a toujours un peu de personnalité. Ensuite, il y a un côté masculin et féminin aussi en Dieu, dans la mesure où dans toutes les religions monothéistes, on dit à la fois, que, notamment même dans le Coran, que Dieu est à la fois le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Or, la miséricorde, si on prend l'origine latin, c'est recevoir dans son cœur la misère de l'autre. Quand on prend l'origine dans le mot hébreu, c'est quelque chose dont j'ai mal pour le prononcer, c'est quelque chose que l'arim, mais qui évoque le ventre de la femme, en fait. C'est la femme qui ressent en elle les douleurs de son enfant. La miséricorde, c'est un peu ça. Donc quand on prend un peu là on va rentrer, on va peut-être perdre les gens, parce que si on rentre dans un trop bien assez trop pointu, on retrouve un peu ce côté-là qui est présenté dans le buisson ardent, dans l'Immaculée Conception, où c'est l'esprit qui se fait feu à l'intérieur d'un buisson, par exemple, pour montrer qu'il vit un peu la même chose d'emprisonnement. Tout puissant, il ne peut pas faire prendre feu à un buisson. Le Verbe qui se fait chair en Marie, par exemple, c'est un peu ça aussi. On retrouve de toute façon, c'est le Verbe de Dieu qui se fait chair en Marie. C'est aussi dit dans le Coran et aussi dit dans l'Évangile. En fait, c'est une chose commune entre les musulmans et les chrétiens. Donc, il y a ce côté un peu que l'on peut dire féminin aussi en Dieu. De toute façon, Dieu est esprit. Oui, et Dieu, oui. Dieu est plénitude quelque part. Donc, on a tort souvent de donner le même sens au mot Dieu dans le monothéisme et au mot Dieu dans le polythéisme. En fait, dans le polythéisme, les divinités, qui sont des fois hommes, des fois femmes, vont plus correspondre aux anges et aux démons, à toutes les forces spirituelles qu'on a toujours perçues dans l'humanité, au travers des religions, et au même dans les cultures ancestrales, quoi.
Écoutez, messieurs,
on va peut-être ennuyer certaines personnes.
Je voudrais rajouter aussi que c'est vrai, les bouddhistes aussi, le yin et le yang, c'est cet équilibre-là.
De toute façon, le bouddhisme est né dans l'hindouisme, et justement, dans l'hindouisme, c'est assez évident que les divinités sont plus un peu des esprits, quoi. Il y a Vishnu, Krishna, et je ne sais plus quel nom, qui représentent les trois visages de Dieu.
C'est ça.
Donc on revient toujours à ça.
Alors je pense, messieurs, que de vous avoir réunis ici tous les deux, mon choix fut très bon.
Je crois qu'il faudrait 10 heures d'émission, je crois.
Non, je suis très contente, très satisfaite de moi de vous avoir mis l'un en face de l'autre. Hein.
Nous aussi, hein, on est contents.
Oui.
Rassure-toi.
Alors, on va partir en chanson avec une chanson « Tu es la femme ».
Si tu veux, oui, tu es la femme.
Tu es la femme. Alors, mais alors, avant de lancer, d'écouter cette chanson, je rappelle que tous ceux qui veulent intervenir pendant l'émission, c'est simple. 09. C'est simple. Oui, c'est simple.
Oui, c'est 09, très facile.
09 52 22 22 07. Alors, et en plus, le premier qui nous appelle, Yanis.
Ou la première.
Ou la première. Qu'est-ce que tu fais ?
Eh bien, j'offrirai mon livre « L'horreur des chrysalides », mon premier roman.
Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous téléphoner. Hein. 09 52 22 22 07. Et on écoute...
Alors, petite précision. Tuer la femme, ce n'est pas le verbe « tuer ».
Non, c'est
« tu ». C'est « tu », plus loin « est » la femme.
Tuer la femme. Voilà. Donc, vous adressez à moi, tuer la femme. Voilà.
C'est la femme un peu multiple,
oui,
justement.
Ah oui, ouais, donc,
la féminité sacrée.
Et justement, il y a un petit côté, quand j'ai vu ce texte que m'a donné Gérardès, avec qui je travaille assez souvent.
Gérardès,
c'est un poète de Neuilly-Mines. Hein,
j'aimerais bien l'avoir
je compte le faire venir un jour pour lui, qu'il présente un peu ses recueils. Et puis, voilà. Et en fait, dans ce texte, il y a un côté de la femme ancestrale, la femme d'aujourd'hui, l'évolution de la femme aussi. Et j'ai essayé de faire une musique qui peut avoir un petit côté, un peu de musique traditionnelle, un peu... Il y a un petit côté, je dirais, oriental dans la musique volontairement, quoi. Il y a un peu Ève dedans, il y a un peu... C'est une petite poésie facile à écouter, de toute façon.
Alors, on écoute.
On a hâte d'écouter, hein.
Celle de midi, celle des couleurs.
Alors, j'ai retenu quelque chose, il faut que tu m'expliques, puis Yanis aussi. J'ai bien aimé la femme, tu es les couleurs de l'envie.
Les couleurs de la vie.
Ah, c'est que j'ai les couleurs de l'envie.
Je comprends que tu préfères l'envie.
Ça peut être les deux, hein, moi je dis.
Oui, oui.
C'est la vie et c'est aussi l'envie.
Allez-y, monsieur.
On te fera un texte comme non, ça, il n'y a pas de souci.
Sincèrement, j'ai cru que j'avais entendu les couleurs de l'envie. Mais ça aurait pu être, mais je suis désolée.
Peut-être que moi, en chantant inconsciemment, mon subconscient m'a fait dire presque l'envie dans la vie.
Je suis désolée, ça peut aller les couleurs de l'envie, une femme. Quand
tout
même.
À fait. Oui, pourquoi pas. Ouais.
Non, voilà, quand tout même.
L'envie, c'est la vie, de toute façon.
Bon, voilà. Hein, donc. L'Odyssée des chrysalides, Yanis. Alors, une trilogie, tome 1, tome 2. Alors, pourquoi ce titre?
Alors, le tome 1, c'est une trilogie. Pour l'instant, il n'existe que deux tomes. Donc, le troisième sera à venir. Le tome 1 s'appelle L'aurore des chrysalides. L'aurore des chrysalides, pas l'horreur, hein, l'aurore.
Ça, c'est comme bien parce que... la couleur des envies. Hein.
c'est pour ça que je préfère préciser. L'aurore des chrysalides, c'est l'histoire d'une rencontre avec son destin, son être profond. C'est la rencontre entre improbable et pourtant, entre un samouraï, une femme et un enfant. C'est quelqu'un qui voit débarquer en lui, dans son esprit, en fait, ces trois personnages et qui va chercher la bonne équation, si j'ose dire, entre ces trois personnages qui sont complètement contradictoires, mais en même temps complètement complémentaires. Donc c'est une histoire de déconstruction par rapport à tout ce que la société... par rapport au formatage de la société, par rapport à la nature humaine dénaturée, puisqu'on est forcément dénaturé à partir du moment où on est en société. Donc c'est une déconstruction par rapport à ça pour se reconstruire. Et donc la reconstruction va se faire par rapport à d'autres valeurs, les valeurs essentielles de l'humanité, c'est-à-dire l'amour... le partage avec l'autre, la fraternité, l'amitié, tout ce qui aujourd'hui est en train de voler en éclats.
Voilà, donc justement, moi je voulais poser une question à Chris, hein, et ensuite Yanis rebondira. Chris, le formatage de la société actuelle.
Alors le formatage, c'est quelque chose qui a toujours existé quelque part. Alors c'est vrai que si on veut avoir un esprit un peu, avoir sa propre pensée, il faut sortir du formatage. Après, ça peut être aussi une base pour faire autre chose. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le être pile poil dans le mode de la société et être dans la marginalité, quoi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On doit être, on est obligé de vivre comme sédentaire, mais on peut avoir un esprit nomade.
Tout à fait.
Je pense que la plupart des individus le font peut-être inconsciemment. Après, bon, il y a des gens qui s'imaginent peut-être avoir plus de valeur parce qu'ils sont bien dans le formatage. On voit ça un peu dans la mode. Dans les modes, c'est vrai que je pense, pour moi qui ai travaillé beaucoup dans la mode et dans le prêt-à-porter, on peut se demander des fois si la mode, c'est pas une façon des fois d'imposer un uniforme et de construire une façon de penser aussi.
Oui, la mode.
On trouve ça dans les voitures, dans
c'est vrai,
la
voilà.
publicité de façon générale.
Et on n'a pas le choix on n'a pas le choix. On est obligé de suivre une mode. C'est vrai que sinon on est totalement marginal. Je pense que c'est un peu le problème quand on est jeune aussi, mais c'est un problème qu'on arrive à résoudre qu'avec l'âge où on se moque un peu totalement de
de la mode quelque part. C'est vrai que maintenant, le formatage de la société, il faut savoir être vigilant, je pense.
Alors.
Après, on peut entendre plusieurs choses dans le mot formatage, quoi. Hein. C'est vrai que inconsciemment, on peut être contre le formatage et formater les autres en pensant qu'on a raison sur tout.
Oui. Ah oui.
Oui.
Alors,
En fait, quand je parle de formatage, c'est qu'en fait, souvent la société nous donne des réponses aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours pensé que, en tous les cas, j'ai évolué dans ce sens-là, en me disant que on n'a pas les réponses et que le plus important, c'est d'avoir les bonnes questions.
Oui, bien sûr.
Et c'est là où je parle de formatage, c'est que déjà, il faut poser les bonnes questions, après essayer d'avoir les réponses. De toute façon, si on se pose les bonnes questions, celles qui sont vraiment existentielles, on n'a pas les réponses.
Et quand on a une réponse, elle soulève d'autres questions.
Exactement.
Derrière. On voit ça un peu d'ailleurs avec la science maintenant, qu'à une certaine époque, les scientifiques pensaient pouvoir tout expliquer, que maintenant, quand on voit les scientifiques, quand ils parlent de la science, certains, on tombe un peu dans quelque chose de merveilleux, parce qu'en fait, chaque nouvelle découverte soulève des nouvelles questions, et on voit même un peu apparaître aussi, c'est un peu comme en religion, on voit apparaître des prophètes, parce qu'une fois que la science repose bien souvent parfois sur des théories, et si un chercheur trouve quelque chose qui va à l'encontre
au-delà
d'une théorie, il peut se faire lyncher, quoi. C'est un peu comme les prophètes, ouais, quoi.
La physique quantique remet en cause une bonne partie de la physique aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire dans ce monde.
C'est vrai que...
Je pense qu'on va repartir un petit peu en chanson, hein. Comme ailleurs, comme partout.
Alors là, c'était un petit clin d'œil à Yanis, parce que c'est une chanson que j'ai faite sur un texte d'une poétesse qui est venue habiter en Picardie et qui venait de la Dordogne, justement. Et dans ce texte, elle met en évidence tous les clichés qu'elle avait sur les gens du Nord.
De la Bourgogne, c'est ça ?
De la Bourgogne, oui. Ah, j'ai dit la Dordogne, je me suis trompé.
Oui.
C'est la Bourgogne.
La Bourgogne.
Mais c'est joli aussi, la Bourgogne et la Dordogne, il y a un point commun.
Ah bah
c'est,
oui.
On y mange bien.
Ça rime en tous les cas.
Et j'ai aimé beaucoup son texte, parce que c'est vrai que c'est comme je faisais un album Bleu Carte Postale qui était consacré à la région, je lui ai proposé de mettre en chanson ce texte qui s'appelle Comme ailleurs, comme partout. Et en fait, elle s'est totalement habituée à la région. Elle se sent picarde, en fait. C'est un peu ce que dit la région, quoi.
Ben merci pour le clin d'œil, hein, Chris.
On écoute.
Moi aussi, d'ailleurs, je vais me sentir picard bientôt.
Ah, oui, oui. Je ne sais pas si on va te laisser partir, d'ailleurs.
je pense qu'il va avoir du mal, tu sais. Mais de toute façon, quand on arrive dans le Nord, qu'est-ce qu'on fait ?
On pleure.
Et puis quand on repart,
on pleure.
Ouais,
c'est ce qui va m'arriver.
Allez, comme ailleurs, comme partout. Ça va arriver. Sinon, je vais dédicacer cette chanson à Monsieur Bultel, tiens. Monsieur Bultel qui nous gâte toujours avec sa tarte et ses tartines à Jojo. Alors franchement, si vous habitez là-bas, c'est aller goûter les tartines à Jojo chez Monsieur Bultel, route de Lens. Et alors Radio Plus et Odopal TV participent avec l'Union commerciale à la foire commerciale qui aura lieu à partir du 14 septembre à Labassé.
D'accord.
Hein, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les magasins. Il y a des cadeaux, il y a des prix. Enfin voilà, quoi. N'hésitez pas à partir du 14 septembre à aller voir les petits commerçants à Labassé. Alors, Angel.
Comme ailleurs, comme partout, un peu seule et puis un peu perdue. Elle venait de sa Bourgogne, au vignoble à perte de vue, vers le nord en Picardie. Elle découvrait alors des visages inconnus, tandis qu'elle tendait sa main prudente et timide. Et puis le Comme ailleurs, comme partout, derrière ces visages inconnus, elle découvrait bien des âmes, en bien des hommes et bien des femmes, et puis le mot bienvenue. Elle avait trop écouté, trop entendu. La dureté des picards lui paraissait bien tendre. Et puis le temps passa, et oui le temps passa. Et puis la vie, la Picardie a changé son regard. Et oui les jours passèrent, et puis voilà qu'elle en est fière d'être comme elle vous voit. Picard. Comme ailleurs, comme partout, écoutant le vide dans l'attente, elle entendait des silences, entrevoyant avec patience les nuages et les orages. Quand vos peines étaient lourdes parfois comme un bagage, accompagnant de son mieux vos justes combats. Et puis le temps passa, et oui le temps passa. Puis la vie, la Picardie, a changé son regard. Et oui, les jours passèrent, et puis voilà qu'elle en est fière d'être comme elle vous voit. Picard. Comme ailleurs, comme partout, sensible aux voix, aux sanglots de trop, elle en cherchait des réponses, et même en trouvait parfois, ou bien s'en voulait tout bas. En comprenant vos colères tonitruantes, même quand parfois explosaient vos rages latentes. Et puis le temps passa, et oui le temps passa. Et puis la vie, la Picardie, a changé son regard. Et oui les jours passèrent, et puis voilà qu'elle en est fière d'être comme elle vous voit. Picard.
Nous venons d'entendre Chris Descourtils. Alors moi je voudrais remercier quand même Angèle, hein, qui nous fait la technique. Willy est en formation, donc il a répondu oui tout de suite à ma demande. Merci Angèle.
Oui, bravo Angèle.
Hein,
et
qui se débrouille très bien. On va faire un petit coucou aussi à Jean de la Dolce Vita qui nous écoute.
Bonjour puis, Jean.
Salut Jean.
Et puis Annick. On va pas oublier Annick.
Annick.
Bah oui.
Sans bonjour Annick. À bientôt Annick.
Oui, voilà, un petit
à
coucou.
Très bientôt.
Un petit coucou Annick.
Oui, j'ai un projet d'ailleurs avec Annick actuellement. Oui. On travaille avec un texte à elle consacré à la mine. Mm-hmm. Mais j'en dis pas plus.
Ouais,
on
voilà.
L'a pas terminé,
on laissera découvrir ça. Voilà. Quand de toute façon, quand c'est prêt, tu m'appelles. Voilà. Alors Yanis, combien de temps on passe pour sortir
combien
quand
de
même
temps, combien de temps
pour sortir ces livres, combien de mois d'écriture, des jours, des mois,
des années. Alors c'est marrant parce qu'à la fin de l'Aurore des Chrysalides, sans dévoiler la fin, puisque de toute façon il n'y a pas de fin, puisque vous avez compris qu'il y a un tome 2 qui est déjà sorti et puis il y aura un tome 3, j'écris, j'aurais mis 6 ans pour me déconstruire et 3 ans pour me reconstruire. Donc, 9 ans, oui, c'est ce que je... En fait, ce livre-là, je l'ai écrit depuis que je suis né, donc il l'a mis un certain nombre d'années. Mais en gros, pour écrire un livre, c'est... En général, un roman, enfin pour moi, en tous les cas, c'est 9 mois. C'est comme un enfantement, en fait. C'est pareil.
9 mois. Mmh. Alors, quand Yanis Taïeb, il a envie d'aller trouver l'inspiration, il va où?
C'est-à-dire que l'inspiration, ouais, c'est, on en revient au divin, c'est de l'ordre du divin. Donc en fait, c'est pas moi qui vais la chercher, elle vient à moi. Je crois qu'on est, quelque part, les artistes sont un peu des messagers de l'univers. Je dis ça humblement, messagers, serviteurs de l'univers. Donc l'inspiration, tu sais, elle te vient, c'est pas toi qui vas la chercher. Quand tu la cherches, tu la trouves pas d'ailleurs. Voilà.
Arianis, je sais que une petite question à poser à Chris.
Oui.
T'es prêt, Chris?
Je suis prêt, vas-y.
Tu as combien de temps devant toi?
Ah, ça, faut demander à Annie.
Rapidos.
Non, je voulais te poser une question, comme je sais que Tu es très calé dans tout ce qui est divin,
très calé, non.
si tu as ton expérience personnelle, voilà, du divin, voilà, et une expérience,
enfin, expérience du divin.
Oui, bien sûr. Riche, riche dans tout.
J'ai une recherche constante.
Voilà, c'est ça. Voilà. Je voulais te demander quelle était en fait l'influence de la foi sur la création artistique. Est-ce que tu...
C'est très facile comme question. L'influence de la foi, je pense qu'elle peut être, importante dans mon cas, parce que j'ai eu mes premières créations. J'ai une culture musicale qui à l'origine a été liturgique en formation.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un peu pour ça que j'ai appris à mettre des musiques sur les textes et non pas l'inverse, à la base. Alors c'est vrai que l'inspiration, est-ce que la foi peut jouer dedans? Inconsciemment même, la foi, je pense que... Je pense un peu que la foi ou la philosophie qu'on peut avoir aura toujours une influence sur ce que l'on fait, même si on ne veut pas forcément la montrer dans un texte, on peut le deviner. Pour moi qui aime beaucoup Brassens, par exemple, Brassens, on retrouve énormément de thèmes de l'évangile dans la chanson de Brassens, même si bouffé du curé. Hey. Et j'ai découvert récemment dans un livre qui est sorti sur lui d'ailleurs qu'en fait c'est quelqu'un qui puisait dans l'évangile et qu'il avait une certaine connaissance fondamentale un peu de la Bible, que n'ont peut-être plus beaucoup certains catholiques aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faisait la part des choses, en fait. Mm. Et de la même manière que le Christ critiquait un peu un certain élitisme chez les pharisiens, Brassens, faisait un peu la même chose. C'est pour ça qu'il ne jetait pas le bébé avec l'eau du bain, on va dire.
Bien sûr.
C'est vrai qu'il y a certains textes où on a une influence dans certains de ses personnages. On peut retrouver des personnages aussi de la Bible. Alors la Bible, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Mmh. Et la Bible, c'est une bibliothèque dans laquelle on trouve des légendes, on trouve de la poésie, on trouve des récits historiques aussi, on retrouve
de la philosophie.
De la philosophie aussi, bien sûr, forcément des révélations. C'est tous des livres différents. Et c'est vrai qu'on parle des fois de la Bible comme d'un livre, mais c'est... Je pense que même en étant totalement sans religion, comme l'était Brassens, on peut y trouver une richesse qui révèle un peu beaucoup l'être humain.
Oui. Parce que la foi ne dépend pas de la religion. De toute façon, la foi, c'est la foi.
Tout à fait.
Bah oui.
Dieu non plus. Dieu est au-dessus des religions.
Exactement.
Alors, Chris, petite question à Yanis. Hein, vu que...
Alors, Yanis, je vais sortir un peu du sujet. Tu es écrivain, tu es poète, tu es slameur.
Et je voudrais te demander un peu si tu voudrais écouter chez toi si tu écoutes de la musique chez toi, que de la musique, quel genre de musique tu vas écouter davantage qu'une autre.
Bah, alors c'est très hétéroclite ce que j'écoute en fait. Bon, déjà, bah, forcément, je suis porté par les beaux textes, les mots, et notamment tous ces poètes. Tu as parlé de Brassens. Moi, mon maître entre guillemets, c'est Brel. Oui. Mais bon, il y en a d'autres. Léo Ferré a fait des choses magnifiques. Il y en a d'autres, des gens plus actuels aussi. J'écoute aussi. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans l'art, c'est l'émotion. Je veux dire, on fait de l'art, on écoute de l'art pour générer une émotion. Moi, c'est ça que je cherche, toucher ma corde sensible quand j'écoute quelque chose. Enfin, ou en tous les cas que je suis donc public. De quelque quart que ce soit, en fait, je recherche quelque chose qui va me toucher au fond du cœur. Et j'aime aussi, en fait, par exemple, des choses comme Dire Straits, qui n'ont rien à voir avec Brel, parce que, en fait, je recherche les gens qui ont ce sens du momentum où, à un moment, il y a quelque chose qui se passe et on est touché en plein cœur, on ne sait pas pourquoi, même si on ne comprend pas les paroles, même si on ne comprend rien. La musique, on comprend toujours, de toute façon. Et il y a quelque chose qui nous percute et qui nous envoie ailleurs. Et c'est vraiment ça que je cherche, en tous les cas, en tant que amateur d'art.
Je pense que tu recherches plus l'expression dans la musique que le rythme ou quelque chose comme ça, quoi, peut-être.
Oui, quelle que soit la musique, en fait, quel que soit le style de la musique, ça, c'est pas très important. Le tout, c'est d'être touché.
Je pense, d'une manière générale, il faut que l'art soit un moyen d'expression.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une façon de dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement.
Alors, on va partir dans l'art avec Chris et sa guitare qui va nous faire un petit live.
Wow.
Il n'y a plus d'après.
Ah oui.
Ça
parle un peu de cette chanson. Alors, c'est une chanson qui a été composée par Guy Béard, qui a été chantée par une chanteuse très célèbre que tu aimes bien, Annie. C'est qui ?
Attends, répète, j'étais en train de regarder mon...
La chanson « Il n'y a plus d'après ».
Une
femme qui a chanté ça, parce que tu poses des questions.
Ah, Saint-Germain-des-Prés, Barbara ?
Non.
C'est pas Barbara, « Il n'y a plus d'après ». Juliette Gréco ?
Non.
Oui ?
Isabelle Aubray aussi, je crois.
Isabelle Aubray, oui.
Tu as gagné un livre, Annie.
Ah oui. Allez, on écoute, et c'est vrai que le temps passe très vite. Hein.
Alors...
Changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a plus qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre et que je suis un autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi.
Il n'y a plus qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois à vivre au jour. Le monde des amours me renaît dans ses ruelles, des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a plus qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois.
Bon, c'est vrai que le temps passe vite, on va se dépêcher. Alors moi, j'ai dans mes mains, et si c'était ça l'amour, Dame de cœur numéro 2, et je vais vous en lire un petit extrait, je ne ferai qu'un petit extrait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Égo d'homme, j'ai senti ta flamme, ma princesse en moi, pénétrer mon âme, rallumer ma foi, ton petit jeu de dame, abracadabra, tomber sous le charme. Je suis aux abois, plus qu'une girouette au son de ta voix, rien qu'une marionnette au bout de tes doigts. La toile invisible que tes mains déploient, désir irrésistible de subir ta loi. Allez, fais de moi ce pantin de bois et prends les ficelles, je m'en remets à toi. Vas-y, fais de moi ce pantin de bois et tire les ficelles, je m'abandonne à toi. Voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais j'ai trouvé ça très, très...
C'est très joli.
Très beau. Mais comment on peut écrire ça?
C'est un peu provocateur, je le reconnais. Mais en fait, bon, il faut savoir dans quel contexte il est écrit. Ça a été écrit, en fait, dans le contexte de l'aurore des chrysalides, donc, où cette personne va voir débarquer donc une femme, un homme... enfin, une femme, un samouraï et un enfant. Et puis, en fait... va essayer de s'en sortir entre ces trois voies-là. Mais ce que je voudrais dire par rapport à l'amour, parce que ça a bien sûr un rapport avec l'amour aussi, c'est que l'amour, c'est l'abandon de soi, et ça, c'est quand même important. Et quand je dis l'abandon de soi, c'est pas l'abandon de soi à l'autre, bien évidemment, parce que là, ça peut devenir pervers et assez grave, mais c'est l'abandon de soi, de son ego, à une troisième personne qui naît, de l'union de deux êtres, quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est ça l'amour.
Alors, bon, on n'a plus que 5 minutes, ça va vite. Hein.
Ah oui.
Alors, je pensais terminer en musique, mais non. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain.
Oui.
Jeudi, hein, Yanis, nous recevrons Yanis Taïeb, mais Slammer.
Oui, c'est ça.
Slammer. Et nous serons aussi en compagnie de Francisco da Consensao. En première heure. Et nous aurons aussi Chris de Descourtils qui va revenir. Mmh. Alors, on va se quitter sur un texte de l'aurore des chrysalides.
J'ai un mot avant, Annie.
Ouh,
oui, parce qu'on a oublié de dire que je dédicaçais mes livres à la Maison,
à la maison de la presse.
De la Bassée.
Voilà, mais on pourra encore...
Samedi.
Voilà, donc nous rappellerons tout ça. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous écouter.
Merci, Chris.
Merci, auditeur, auditrice.
Merci, la dame brune.
Merci, je vous donne rendez-vous jeudi. Hein. Merci encore à Angèle. Et on se quitte avec la voix de Chris Descourtils.
C'est un extrait de l'aurore des chrysalides.
C'était un jour comme ça, quand tu es rattrapé par ta propre histoire, qu'elle te dépasse, qu'elle te dépouille, qu'elle te conduit dans une impasse et verrouille à clé la porte de tes rêves. tes espoirs, ton avenir, et d'un coup de glaive coupe le fil de ta mémoire et de tes souvenirs. Alors à ce moment-là, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne. Alors à ce moment-là, tu n'entends plus que ce brouhaha qui résonne. Ton souffle se fait plus court. Tu cherches à respirer, tu manques d'air. Tu commences à tituber, et puis tu te laisses envelopper par cette lumière. Ou bien, dans un dernier sursaut, dans une ultime bataille, tu te redresses. Tu ouvres bien grand la bouche en direction du ciel pour happer ces gouttes de pluie, ces gouttes d'éternel. Dans un dernier sursaut, dans une ultime bataille, tu parviens à sauver ta peau en déposant ta mémoire quelque part, autre part, en suspendant tes rêves au souffle du samouraï.
C'était...
J'ai fait du mieux que j'ai pu.
J'aurais pensé un peu à ce que l'on disait tout à l'heure, en fait, sur l'inspiration de la foi. Quand on écrit, il faut être libre et il faut suivre son inspiration, mais il ne faut pas s'imposer de vouloir faire un texte sur quelque chose.
Tout à fait.
Il faut qu'il y ait une inspiration qui nous donne une idée et c'est après que ça devient un sujet.
Bien sûr.
Ouais. Voilà.
Alors, il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé?
Alors, ça résume un peu toute la conversation qu'on a eue dans l'émission sur la recherche du renouveau qu'on a toujours besoin. On a toujours un peu besoin de se remettre en question, quoi. Ce texte, la première fois que je l'ai lu, j'ai cru que ça faisait penser à quelqu'un qui allait perdre la vie. Mais au contraire, non, c'est quelqu'un qui était en train de renaître. C'est un peu tout ça le sens du message.
Exactement.
Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, messieurs. Bon, ben, je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on est pris par le temps. Donc, Yanis, jeudi, ce sera le slameur. Et puis, je pense que tu reviendras...
Ah, je reviendrai, oui, tous les jeudis.
Tous les jeudis, oui, pas de souci.
De toute façon, je pense qu'il va déménager, qu'il va venir habiter dans le coin.
Dans quel coin? Parce que c'est les Hauts-de-France, il y a de jolis coins. Hein.
Ah oui, je ne sais pas encore, Annie.
Alors, écoutez, j'étais ravie, mais alors vraiment ravie de vous avoir tous les deux. Et puis, on se donne rendez-vous jeudi.
Mais on était ravis aussi, hein, Chris. On a échangé vraiment. On ne se connaissait pas.
Je pense qu'on n'a pas fini d'échanger, d'ailleurs.
Oui. Oui, tout à fait. Et je pense que, Yanis, il va falloir que tu nous sortes un CD avec tous ces belles chansons qu'on va entendre jeudi.
Oui.
Chris,
oui. Très content d'avoir fait cette émission aussi.
Voilà, et Chris,
très content d'avoir découvert Yanis. Hein, tu m'en avais parlé déjà un petit peu.
Ben moi aussi, hein, j'ai un peu plus découvert ton univers. Merci.
Voilà, et merci Angèle. Hein, il est charmant.
Merci Angèle, hein, c'était super. Hein, pour la première,
t'es un pro. T'es un pro,
voilà,
déjà.
Voilà, c'est un pro. Et jeudi, nous retrouverons Willy. Hein, Willy et nous allons aussi retrouver tout de suite après l'émission Dominique. Dominique qui fait sa rentrée avec un hommage à Annie Cordy et à Alain Delorme. Et...